BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Erwan Maurice.
Bientôt 7h, bonjour à tous, bon réveil. Ravi de vous retrouver dans votre matinale écho. Au programme de ce vendredi 15 mai, c'est le dernier jour de la visite d'État très commentée de Donald Trump en Chine. Les observateurs en attendaient beaucoup. Alors oui, elle marque une forme d'apaisement des relations commerciales entre Pékin et Washington. Même si l'on attend encore des résultats tangibles, Donald Trump parle d'accords commerciaux fantastiques, sans que l'on en connaisse encore précisément la substance. En tout cas, derrière les contrats, cette visite n'a pu dissimuler des divergences qui restent importantes. Le récit à suivre de nos correspondants à Washington et à Taïwan. Entre Trump et Xi, y a-t-il un gagnant et un perdant? Ce sera la chronique internationale de Mathilde Chaminade à 7h20. Selon notre éditorialiste Emmanuel Lechypre, les thèmes stratégiques abordés lors de la rencontre font des Européens les dindons de la farce. Il en débattra avec Raphaël Legendre dans 10 minutes. Pendant ce temps-là, Jerome Powell fait ses cartons. Le patron de la Fed, qui a résisté jusqu'au bout à Donald Trump, cède son siège à Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale, qui va avoir la lourde tâche de baisser les taux dans une conjoncture particulièrement difficile. Explication d'Étienne Braque à 7h30. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Léo Dumas. Les titres ce matin.
Stellantis relance une alliance en Chine pour fabriquer des Peugeot. LVMH confirme la vente de Marc Jacobs et puis IPO fracassante hier à Wall Street.
Dans vos rendez-vous aussi ce matin, le partenariat qui fait beaucoup parler entre Swatch et Audemars Piguet, c'est la chronique retail d'Eva Jaco dans 20 minutes. 7h45, le grand entretien. Olivier Cohn, directeur général de Best Western France. 8h20, dans Parole de patron, l'allemand Merck fait des semi-conducteurs made in France pour garantir la souveraineté industrielle. Voilà le programme, il est 7h, le journal.
Good morning business, le journal.
Et cette ultime face-à-face en cours entre Xi et Trump.
Et après Taïwan hier, c'est sur l'Iran que le ton est en train de monter ce matin en marge de ce sommet. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, elle n'a aucune raison de se poursuivre. C'est ce que dit Pékin par voie de communiqué en réclamant la réouverture dès que possible du détroit d'Ormuz. Alors pas de réponse publique à ce stade côté américain. Mais Antoine Forestier, on vous rejoint à Washington. Donald Trump, lui, a assuré hier soir avoir obtenu des gages de Xi Jinping sur cette question.
Oui, vous en rappelez, avant le début de ce sommet, le New York Times avait révélé que des entreprises chinoises de défense comptaient envoyer des armes en Iran via des pays tiers pour plus de discrétion. Les États-Unis souhaitaient obtenir une clarification de la Chine à ce sujet. Et bien, selon Donald Trump, qui s'est exprimé sur Fox News il y a quelques heures, Xi Jinping ne compterait plus envoyer d'armes à l'Iran. Je vous propose d'écouter le président américain tout à l'heure.
Xi Jinping a dit qu'il ne fournirait pas d'équipement militaire. C'est une déclaration importante. Il l'a dit aujourd'hui et il l'a affirmé. Mais avec force.
Il y a quelques minutes, le ministre des Affaires chinois a indiqué pour sa part qu'il souhaitait que le cessez-le-feu se poursuive et que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Les deux hommes, Donald Trump, Xi Jinping, vont continuer de discuter aujourd'hui. Ils doivent prendre le thé en ce moment même, puis un déjeuner. Et ensuite, Donald Trump retournera ici à Washington.
Merci Antoine Forestier à Washington. Alors sur le front du business, maintenant le sommet est décevant. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce formelle de contrat ou de commande entre les deux pays. Donald Trump, toutefois, assure lui ce matin qu'il a conclu des accords commerciaux fantastiques après déjà avoir glissé plusieurs indices hier soir sur Fox News, Nathan Cocampo.
200 gros avions Boeing, c'est ce qu'aurait promis d'acheter Xi Jinping à Donald Trump selon les mots du président américain. Rien d'officiel donc, et on est très loin des 500 avions monocouloirs 737 MAX évoqués par la presse depuis des mois. L'action du constructeur plonge de plus de 5% en bourse. Sur Fox News, Donald Trump assure aussi que la Chine veut lui acheter plus de pétrole pour réduire sa dépendance à Hormuz et aussi du soja américain, mais sans donner de chiffres. Même optimisme de Jameson Greer, le représentant américain au commerce, qui s'avance un peu plus et évoque la signature d'un contrat d'ampleur après la visite de Trump, autour de dizaines de milliards de dollars d'achats de produits agricoles au cours des trois prochaines années.
Les États-Unis n'attendent qu'ils assouplissent leurs restrictions commerciales avec la Chine.
Selon Reuters, Nvidia va pouvoir vendre ses puces H200 à 10 entreprises chinoises, Alibaba, Tencent, ByteDance. La H200, c'est la deuxième puce IA la plus puissante du groupe. L'administration américaine donnerait son feu vert à l'achat de 75 000 puces par client. Jensen Huang avait rejoint en dernière minute la délégation américaine. Enfin, toujours dans cette dynamique d'assouplissement des relations, les responsables américains évoquent dans la presse la possibilité de créer un nouvel organisme, un conseil du commerce pour mieux gérer les relations commerciales et surtout réduire les taxes et les barrières commerciales sur les biens non essentiels qui ne soulèveraient pas de préoccupations en matière de sécurité nationale. Sur CNBC, Scott Bessent précise qu'une des solutions envisagées repose sur une réduction des droits de douane sur 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux.
Merci beaucoup Nathan Cocampoy. On surveille bien sûr les annonces commerciales à venir dans l'actualité des entreprises. Annonce de Stellantis ce matin.
Oui, le constructeur qui relance son partenariat avec son allié chinois historique, le groupe Dongfeng. Ils vont produire ensemble des Peugeot et des Jeep directement en Chine, Adrien Guillaume Padovan.
De nouveaux véhicules Peugeot électrifiés et deux Jeep tout-terrain rechargeables arriveront sur les lignes de production de Wuhan en 2027. Des modèles coproduits par Stellantis et Dongfeng à destination de la Chine, mais aussi des marchés internationaux. 1 milliard d'euros sont sur la table, dont 130 millions d'euros de Stellantis. Une nouvelle page s'ouvre dans un partenariat qui dure depuis 34 ans entre les deux alliés industriels. Ces dernières années, Stellantis avait progressivement réduit sa présence industrielle en Chine à cause de ventes trop faibles. Dans son communiqué, Antonio Filosa explique désormais vouloir capitaliser davantage sur leurs atouts respectifs. Cette annonce de production commune intervient dans un contexte où Stellantis envisagerait en Europe de vendre une partie de ses usines au groupe chinois. La presse évoque un site en Italie, en Allemagne et l'usine de Citroën près de Rennes où une délégation de Dongfeng serait d'ailleurs venue récemment. Stellantis compte aussi vendre son usine à Madrid à son autre associé chinois, Leapmotor. Dongfeng, Leapmotor et bientôt BYD, le constructeur serait aussi en négociation pour reprendre des sites inactifs en Europe.
Et dans le secteur changement de patron chez BMW, Milan Nedeljkovic a pris les rênes du groupe. Hier, prise de fonction au moment où le constructeur allemand lance sa nouvelle génération de modèles électriques pour se défaire d'un côté de la concurrence chinoise et aussi survivre aux droits de douane américains, Astrid Olivier.
Pur produit du groupe, Milan Nedeljkovic a rejoint BMW en 1993 après avoir dirigé plusieurs sites industriels majeurs. Il pilote depuis 2019 l'ensemble de la production mondiale du constructeur. Considéré comme l'un des artisans de la stratégie électrique du groupe, il prend aujourd'hui les commandes dans un contexte de transformation accélérée. Sa mission, augmenter la cadence sur l'électrique, appelé à devenir le cœur de l'offre de BMW tout en lançant près de 40 de nouveautés d'ici l'année prochaine. Le dirigeant devra aussi relancer la marque de luxe que le groupe a acquis il y a 4 ans, moderniser en parallèle les plateformes thermiques hybrides et électriques et maintenir la rentabilité du constructeur dans un marché de plus en plus tendu. Car BMW fait face à une double pression. D'un côté, la concurrence chinoise, très agressive sur l'électrique, séduit une clientèle jeune et moins attachée au prestige historique des marques européennes. De l'autre, les droits de douane américains qui ont coûté 1 milliard d'euros à BMW l'année dernière.
Accord définitif aussi pour la cession de Marc Jacobs par LVMH. C'est le fonds d'investissement américain WHP Global qui va reprendre la marque d'ici à la fin de cette année. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais il est estimé à 1 milliard de dollars par le Wall Street Journal.
À Wall Street hier, une entrée en bourse fracassante.
Celle de Cerebras, dont le titre a progressé de 68% à la clôture. De quoi donc porter sa capitalisation à presque 95 milliards de dollars. Cerebras, qui est un spécialiste des processeurs géants et qui tente de concurrencer Nvidia, Clara Bido.
Fondé il y a 10 ans en Californie par l'entrepreneur américain Andrew Feldman, Cerebras Systems fait aujourd'hui partie des entreprises qui affolent la Silicon Valley. Les chiffres donnent le tournis, une activité en hausse de 76% sur un an pour un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de dollars. Le fabricant s'est spécialisé dans les puces capables de faire tourner des modèles d'IA avancés. Pour se démarquer, il mise sur des puces géantes, des plaques de silicium de la taille d'une assiette, jusqu'à 58 fois plus grandes que certaines cartes graphique de Nvidia. L'entreprise cherche maintenant à moins dépendre de ses deux principaux clients basés aux Émirats Arabes Unis, le groupe GP42 et l'université Mohamed Bin Zayed. Et les géants du secteur de l'IA se bousculent. OpenAI a signé un accord de 20 milliards de dollars avec le fabricant. Amazon, Meta ou encore Mistral AI font aussi partie des clients.
Voilà pour les explications de Clara Bido. Les semi-conducteurs, on en reparlera à 8h20 dans votre rendez-vous Parole de patron avec Damien Tulleux, vice-président exécutif, directeur de la branche électronique de Merck, et oui, qui le pharmacien allemand, qui a 15% de son activité dans justement les semi-conducteurs et qui investit en France pour la souveraineté industrielle.
Et puis à moins d'un mois de la Coupe du Monde de foot maintenant, et alors que Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste pour l'équipe de France, les organisateurs, eux, sont contraints de réagir après les polémiques sur les tarifs exorbitants de cette compétition. Les fans ont déjà dû casser leur tillerie pour obtenir des places. Alors maintenant, entre le prix des visas et le coût des transports, les autorités américaines ajustent le tir en catastrophe, Paul Valère.
Pour les supporters algériens, tunisiens, ivoiriens ou sénégalais, c'est un soulagement. Ils devaient, pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, verser une caution de 5 000 à 15 000 $, dispositif instauré par l'administration Trump dans sa lutte contre l'immigration. Face aux critiques, la Maison-Blanche renonce, mais attention, cette exemption ne s'appliquera qu'aux seuls détenteurs de billets s'étant inscrits sur la plateforme de visa mise en place par la FIFA. Autre polémique qui a poussé l'organisation à faire marche arrière, le prix stratosphérique des transports en commun, qui ont finalement été revus à la baisse. L'aller-retour en train entre Manhattan et le MetLife Stadium à New York, fixé au départ à $150, est passé à 105 puis à $98, encore bien supérieur aux $13 habituels. Le billet de bus, lui, est abaissé de 80 à $20 pour tenter de calmer la colère des fédérations de supporters.
7h09, la bourse.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre rendez-vous avec Moneta Asset Management, notre savoir-faire action pour votre épargne depuis près de 23 ans.
Bonjour Étienne Brack.
Bonjour à tous.
Il pleut à Wall Street, une pluie de record.
Encore et toujours, plus 0,9% pour le Nasdaq, plus 0,7% pour le S&P 500, qui a franchi la barre symbolique des 7500 points quand le Dow Jones a retrouvé le seuil des 50 000 points. Le Dow Jones qui n'est pas sur des records, il est uniquement sur des plus hauts du mois de février. Une nouvelle fois, Wall Street peut dire merci au secteur de la tech et surtout merci à Nvidia, hein, qui est toujours et de loin la première capitalisation mondiale, plus 4,5%. Johnson & Young fait partie du déplacement en Chine avec Donald Trump et selon Reuters, eh bien Johnson & Young a réussi à vendre des puces H200 en Chine et ça a propulsé hier le titre de plus de 4% à la clôture avec même désormais un groupe qui frôle les 6 000 milliards de capitalisation boursière. Nous étions à 5 700 milliards hier soir à la clôture, plus 13% pour Cisco après la publication de ses résultats. Le groupe revoit à la hausse ses perspectives. Cerebras, on vient de l'entendre, a quand même gagné 68% pour sa première séance en bourse. Et puis dans le long côté, c'est toujours l'euphorie aussi avec, selon Bloomberg, Anthropic, la maison mère de l'IA Cloud, qui s'apprête à lever $30 milliards. En février, souvenez-vous, le groupe avait déjà levé 30 milliards, sauf qu'entre-temps, la valorisation est passée de 380 à plus de $900 milliards. C'est tout simplement impressionnant. Tout le monde aujourd'hui veut faire partie de l'aventure Anthropic, que ce soit les Amazon, les Google et puis bien sûr les fonds d'investissement, alors que le groupe s'apprête à entrer en bourse. En tout cas, il ne l'a jamais contredit et le marché attend de pied ferme cet IPO.
Vend des records en pagaille, Étienne, alors que les taux longs, eux, continuent de grimper.
Ouais, et le 10 ans américain est à 4,5%. C'est une première depuis juin dernier. Le 30 ans est sur un sommet de 10 mois à 5,06, car les investisseurs commencent petit à petit à intégrer le fait que l'inflation va rester collante aux États-Unis. Et nous en parlerons dans 20 minutes. L'arrivée de Kevin Warch ne va pas faciliter les choses pour la Fed. Petit à petit, le marché se dit que la Banque centrale américaine va peut-être devoir relever ses taux. Alors habituellement, quand le 10 ans américain progresse, les actions baissent ou du moins elles sont stables, mais là ce n'est plus du tout le cas parce que l'intelligence artificielle et surtout les valeurs technologiques sont totalement en train de disrupter le marché, de disrupter Wall Street avec aujourd'hui le retour de Tina, There is not alternative. À très court terme, la tech est l'un des seuls secteurs qui offre de la visibilité et de la croissance. La guerre en Iran et le pétrole n'affectent pas les GAFAM et les flux continuent d'affluer sur ces valeurs technologiques.
Merci Étienne Brack, on vous retrouve dans une demi-heure. Tout de suite, le débat des éditeurs.
Good morning business face à le Chypre.
Et on revient sur cette rencontre au sommet. Alors, on attend toujours les annonces sur d'éventuels contrats. Donald Trump, lui, parle d'accords commerciaux fantastiques. Face à vous, Emmanuel Le Chypre, ce matin, Raphaël Legendre. Et notre regard va se décaler un petit peu par rapport à cet événement parce que des thèmes stratégiques, en réalité, sont abordés à Pékin depuis deux jours avec des Européens qui, peut-être, Raphaël, sont les dindons de la farce de cette rencontre, finalement, des sujets qui sont décidés sans eux.
Je dirais pas les dindons de la farce, mais on va voir fleurir les commentaires des observateurs en disant que l'Europe est totalement à absent une fois de plus de ce grand rendez-vous des deux grandes puissances mondiales. On parle commerce, on parle géopolitique, on est très directement impacté, nous, par ces discussions. Hein. La crise en Iran pèse très lourd sur notre croissance et l'Europe est évidemment totalement absente de ces discussions. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on est au banc des puissances mondiales ? Moi, je pense que non. On va voir ce qu'en pense Emmanuel tout à l'heure. Mais cette domination mondiale, elle se joue sur trois terrains de jeu. Selon moi, c'est économique, technologique et évidemment stratégique, la géopolitique dont on parle quotidiennement. Et bien sur ces trois points nous concernent, de tous les pays qui sont pris en étau entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui, je pense que la zone euro, l'Europe, l'Union européenne, est celle qui a le plus d'avantages pour s'en sortir, pour émerger en tant que véritable puissance, même si on n'y est pas encore tout à fait. Emmanuel nous en parlera. Mais sur l'économie, je voulais simplement rappeler un chiffre. C'est l'excédent de la balance courante européenne. On vend davantage que ce qu'on achète. On exporte 365 milliards d'excédents courants en 2025. C'est 1 milliard par jour de bénéf, pour faire simple. Quand les États-Unis, c'est plus de 1000 milliards de déficit courant. Donc, économiquement, on est puissant. Le monde veut acheter nos produits. On vend énormément.
Et les Chinois, c'est 1200 milliards.
Alors, les Chinois sont à plus de 1000 milliards, donc c'est effectivement plus de trois fois nos excédents. On est bien d'accord, mais on a excédent de 1000 milliards d'un côté, déficit de 1000 milliards de l'autre. On vend quand même, on a 360 milliards d'excédents. 1 milliard, c'est facile à retenir, hein, 1 milliard d'excédents par jour. C'est une force, il faut s'en rendre compte. On le raconte pas assez, ça, dans l'opinion publique. Sur la technologie, on a tous les acteurs pour concurrencer les acteurs américains. On n'a pas raté la tech, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Simplement, on a une tech moins visible du grand public que les Google, les Amazon, Apple et consorts. Mais on a SAP dans les logiciels, on a ASML dans les semi-conducteurs, on a Siemens dans l'industrie, Mistral, évidemment, dans l'intelligence artificielle. On a toutes les briques stratégiques, en réalité, simplement, et sur lesquelles on est incontournable en plus. Hein. Simplement, on n'a pas le narratif, là, encore une fois. Et puis souvent, on n'a pas l'échelle non plus, parce que on a toujours nos barrières européennes qui font qu'on a tous les acteurs qui sont là, avec des produits de qualité, mais on n'a pas l'échelle du marché commun en entier. Donc le sujet, c'est pas l'absence de champions, c'est la fragmentation. Et puis enfin, sur la géopolitique, bah c'est vrai que là, on est un peu en arrière de la main face aux États-Unis ou à la Chine, mais on est fort sur plusieurs politiques fédérales, le commerce, la concurrence et la politique monétaire avec l'euro. Là où on est faible, c'est quand on est sur national. Et donc, c'est la défense, c'est les affaires étrangères, c'est le volet géopolitique. Et pour ça, c'est la gouvernance européenne qu'il faut revoir.
Emmanuel Lechypre, pour Raphaël Legendre, tout va bien sur la scène internationale.
Alors, si on ramasse un peu tout ça, et puis pour remettre aussi en perspective tout ce qu'on a dit un peu cette semaine autour de ces thématiques-là, notamment avec Jean-Marc Daniel. Donc, moi, j'entends quoi ? J'entends finalement que on va vers une Europe qui a tout le potentiel pour se redresser, qui a les bonnes valeurs, qui a les bons objectifs, l'Europe qui va vers la transition écologique, face à des États-Unis qui, si j'en crois ce que dit Jean-Marc Daniel, sont devenus un pays du tiers-monde surendetté, les chiffres qu'a souligné Raphaël. Si on en croit aussi, finalement, cette vision de la Chine, pays qui va bientôt devenir extrêmement vieux avant d'avoir été riche, je me dis, mais oui, l'Europe a tout pour être la grande puissance du 22e siècle.
Ouais, c'est ça. On va attendre encore un peu.
Voilà.
Il y a du boulot.
Mais oui. Mais en attendant, il aura fallu qu'elle survive au 21e siècle. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est là où ça n'est pas gagné. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, quand on regarde depuis le début de la construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on est effaré de voir à quel point cette construction européenne s'est faite au prix d'une dépendance totale vis-à-vis du reste du monde, dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen-Orient et de la Russie. Le problème, c'est que, encore une fois, cette prospérité européenne de l'après-guerre bâtie sur la peur que la guerre revienne à nouveau. Ben, ça marchait quand le monde était bienveillant, quand le monde était multilatéral, pas quand le monde redevient un monde de puissance sans morale, alors que l'Europe ne jure que finalement par... L'Europe déteste la puissance et ne jure que par la morale. Donc ça, ça va être extrêmement compliqué.
Mais sauf dans les moments de crise, comme en ce moment, en réalité, où on se réveille.
Oui, vous n'avez pas tort. C'est vrai que c'est toujours dans les moments un peu critiques que l'Europe avance. L'Europe avance par à-coups. C'est vrai qu'on l'a vu, ne serait-ce que pendant la crise de 2008-2009, où là, on a bâti les filets de sécurité financière. Mais là, ce qui est vraiment inquiétant, c'est notre logiciel intellectuel qui est mort. En plus de ça, moi, je partage pas l'optimisme de Raphaël sur la technologie, surtout l'unité européenne. On voit bien que au moment où les empires se reforment, on ne joue que la fragmentation. C'est-à-dire que quand le monde était calme, prospère, on pouvait finalement se chicaner dans la cour de récréation et se tirer la bourre entre Allemands, Italiens, Espagnols, Français, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Vous ne pouvez pas avancer dans un monde où vous avez les États-Unis qui sont le pays de l'agilité et de l'innovation, de l'autre, la Chine qui est le pays de la stabilité, de la vision à long terme. Vous ne pouvez pas avoir un continent comme l'Europe qui est aussi fragmenté. Donc, moi, je pense qu'il y a deux scénarios. Il y a un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Le scénario optimiste, c'est celui qu'a décrit Raphaël. C'est effectivement l'Europe qui, entre une Chine et des États-Unis qui ne sont pas si puissants que ça, bah, va se refaire finalement une place et devenir la meilleure place du monde finalement pour vivre.
Mais la question aussi,
Mais l'autre scénario, c'est oui, je pense que l'Europe peut devenir le paradis du monde, mais pour
dire
une espèce de centre de loisirs.
L'Europe géant a-t-elle conscience de sa puissance? C'est aussi ce qu'on.
Non, mais l'Europe, elle a abandonné son industrie.
Mais c'est ça tout le sujet, c'est une question de narratif politique en réalité, c'est un combat gramscien pour l'hégémonie culturelle.
C'est le plus gros
on
marché
peut
du monde.
Nourrir, on est le premier marché de consommateurs du monde, effectivement. On a toutes les ressources pour être une véritable puissance. Ce qui manque, c'est le leadership politique et un mode de gouvernance qui doit changer. Mais vous l'avez dit, Erwan, chaque crise est une opportunité et là, on est secoué comme jamais. Le monde a changé terriblement en 10, 15 ans et effectivement, le logiciel européen doit s'adapter. Alors, c'est lent, c'est long, c'est beaucoup trop long parce que on est beaucoup autour de la table, qu'il faut qu'on se mette d'accord. Il faut changer les règles. La règle de l'unanimité, par exemple, ça n'est plus possible. Mais il faut aller vers ce que Mario Draghi a appelé un fédéralisme pragmatique, c'est-à-dire des coalitions de volontaires pour avancer tous ensemble. Mais on a vraiment les moyens de s'en sortir. C'est une question de mindset, d'état d'esprit. Il faut qu'on devienne beaucoup plus conquérant.
En tout cas, voilà, se réveiller dans les crises, ça nous fait, figurez-vous, un point commun avec les Chinois, parce que vous connaissez
ils ont gros problèmes aussi.
La subtilité du mandarin. Crise veut dire aussi
opportunité.
Voilà, ça nous fait peut-être un point commun. 7h21, l'international.
Good morning business. Le monde qui bouge.
La rencontre Trump-Xi touche à sa fin, donc après deux jours de discussions et de cérémonies à Pékin, tous les dossiers ont été évoqués. Commerce, Iran, Taïwan et Mathilde Chaminade pour un premier bilan de cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire que les relations sino-américaines se détendent enfin ?
Oui, l'objectif premier de cette rencontre était de sécuriser la trêve commerciale sino-américaine. Dans ce sens, c'est plutôt réussi. Il y a quelques améliorations des relations commerciales. Par exemple, la Chine dit s'engager à ne faire qu'ouvrir la porte de son économie aux entreprises américaines et à augmenter la coopération économique entre les deux pays. Un des objectifs américains était d'encourager la Chine à investir plus aux États-Unis et à acheter plus de produits américains. Là, d'après Donald Trump, la Chine devrait commander 200 avions Boeing. Ce serait la première commande chinoise d'appareils commerciaux américains depuis presque 10 ans. Pékin serait aussi intéressé par l'achat de pétrole américain et par des produits agricoles, notamment du soja, un dossier sur lequel l'administration américaine était attendue. Et Nvidia devrait pouvoir vendre ses puces H200 à des entreprises chinoises. Et puis sur le volet diplomatique, la Chine accepte d'arrêter de fournir des armes et du matériel militaire à l'Iran tant que la guerre durera avec les États-Unis, c'est une vraie victoire pour les Américains.
Et pourtant, Mathilde, on n'a pas l'impression que les États-Unis ont obtenu tout ce qu'ils voulaient avec cette visite.
Non, sur le volet commercial, les annonces paraissent quand même décevantes. La Chine achètera moins de Boeing qu'attendu. Donald Trump est venu entourer de nombreux PDG américains, Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang. Mais en réalité, peu d'accords commerciaux se matérialisent. La question des droits de douane n'est pas résolue. La trêve commerciale reste fragile. On sait que l'économie chinoise résiste assez bien aux surtaxes que Donald Trump utilise comme moyen de pression. Donc, la Chine n'a pas tellement intérêt à prendre des engagements contraignants pour les éviter. En revanche, Pékin ne desserre pas la vis sur les terres rares, qui est son moyen de pression sur l'économie mondiale. Les Américains espéraient trouver un accord pour maintenir les exportations chinoises de terres rares. Pour le moment, aucune annonce à ce sujet. Pareil sur le volet iranien, les États-Unis espéraient que la Chine intercède auprès de Téhéran pour faciliter des négociations avec les États-Unis. A priori, ça ne sera pas le cas. Par contre, Pékin affirme que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu et réclame un cessez-le-feu ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. La Chine reste aussi parfaitement inflexible sur Taïwan et menace même les États-Unis de clash sur cette question. Hier, après la première journée de ce sommet, Donald Trump postait sur son réseau social Truth que le président chinois aurait laissé entendre que les États-Unis étaient une puissance en déclin. C'est selon Donald Trump, en tout cas Xi Jinping n'a pas dit ça directement devant la presse, mais l'opinion du président chinois n'est pas secrète sur cette question. Il est convaincu que la puissance des États-Unis est vouée à s'effacer devant celle grandissante de la Chine. Et il a traité ce sommet en réalité avec cette idée en tête. Il n'a fait avec la volonté et les intérêts de la Chine qui passent avant la relation sino-américaine. Et le gouvernement chinois ne s'est pas plié aux demandes américaines, il a plutôt fait les concessions qui les arrangent.
Le monde qui bouge avec vous Mathilde Chabinade. 7h24, l'heure du retail, ce matin un partenariat qui a fait beaucoup parler.
Good morning business, morning retail.
Eva Jaco, il s'agit de la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, attendue comme l'un des lancements horlogers les plus importants de l'année. Depuis deux jours, les images officielles de la collection Royal Pop circulent et les réactions sont particulièrement divisées en réalité sur les réseaux, Eva.
Oui, effectivement, après plusieurs jours de spéculation sur le design de cette montre et des centaines d'images générées par intelligence artificielle, eh bien, le verdict est tombé mardi, cette montre tant attendue. La voici, la Royal Pop sera commercialisée dès demain avec une distribution limité à certains magasins dans le monde, tout ça pour alimenter la rareté. En fait, c'est un mélange du modèle légendaire Royal Oak d'Audemars Piguet et du modèle Pop de Swatch qui a vu le jour dans les années 80. Mais là où les internautes s'attendaient à trouver une montre bracelet, eh bien, il s'agit en réalité d'une montre de poche. Une montre agoussée, revisitée, aux couleurs vives qui se déclinent en 8 modèles, unis avec un cordon réglable à partir de 385€. Alors, c'est un choix esthétique qui est quand même assumé par les deux marques, qui ont conscience que ce modèle peut tout de même surprendre, puisque la directrice générale d'Audemars Piguet confiée sur LinkedIn, les avis sur ce projet sont bien sûr partagés, ils le sont toujours, quand le luxe s'aventure au-delà des frontières traditionnelles, quand l'horloger provoque la discussion, la curiosité, le désir et même le désaccord, eh bien ça n'a pas loupé, puisque le modèle surprend et même déroute certains fans sur les réseaux sociaux. On trouve des centaines de posts humoristiques, certains comparent la montre à un chronomètre que portent les profs de sport,
c'est
ou alors
faux.
Le compare à un gadget ou à un jouet qu'on pourrait trouver dans le menu d'un Happy Meal chez McDonald's.
C'est pas très gentil. Bon, non. En tout cas, quand même, Eva, on avait aperçu de nombreuses images de clients qui campaient devant les magasins. Ça veut dire qu'il y avait quand même de l'attente sur ce produit.
Oui, effectivement, on a vu des files d'attente se former devant plusieurs magasins à travers le monde, notamment à New York, avant que le design soit révélé. Depuis qu'on a découvert ce à quoi ça ressemblait, eh bien, certains sont quand même déçus, découragés. Il y en a d'autres, tout de même, sur les réseaux sociaux qui saluent ce coup de génie marketing de Swatch, qui est capable ici de démocratiser l'univers ultra-luxe d'Audemars Piguet auprès de la Gen Z. La Royal Pop peut aussi surfer sur la vague des Laboubou et peut-être plus parler à ce moment-là aux femmes qui peuvent, par exemple, accrocher cette montre à leur sac à main. Et puis d'autres qui sont très frustrés par le cordon imaginent déjà que d'autres accessoires vont voir le jour pour pouvoir peut-être insérer ce cadran dans un bracelet qu'on pourra porter à la main.
Bon, c'est pas une première pour Swatch, Eva, qui avait déjà collaboré il y a quelque temps avec Omega.
Oui, et ça, c'était en 2022, effectivement. Swatch avait créé un véritable phénomène mondial avec la Moon Swatch. C'était sa collaboration avec Omega qui était inspirée de la mythique Speedmaster. À l'époque, déjà, il y avait d'immenses files d'attente qui s'étaient formées partout dans le monde et certaines montres s'étaient revendues plusieurs fois leur prix sur Internet.
Merci beaucoup, Eva Jacquot, Loritel, avec vous tous les matins dans Good Morning Business. Vous restez avec nous dans un instant, le journal de 7h30 avec Léo Dumas. Et on reparlera bien sûr de la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump. On prendra la direction de Taïwan, où nous attend notre correspondant. A tout de suite.
Good Morning Business, le journal.
7h30, merci d'être avec nous. On vous retrouve, Léo Dumas, les titres de ce vendredi 15 mai.
Fin imminente de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. Pas d'annonce commune, mais la Chine fait passer ses messages. On verra ça depuis Taïwan, dès le début de ce journal. Séjour de passation à la fête, décryptage de Tian Brac à suivre. Et puis la City est au soutien de Keir Starmer. Donald Trump et Xi Jinping sont donc encore en face à face et après presque 48 heures ensemble à Pékin, il n'y a toujours pas de déclaration conjointe ni d'annonce formelle sur le front commercial américains et chinois qui, à l'inverse, continuent de s'envoyer des messages à travers la presse et des communiqués. On fait le point avec Étienne Henry à Taïwan pour BFM Business.
Avant le départ de Donald Trump prévu en début d'après-midi, les deux chefs d'État ont pu se promener autour d'un des lacs de l'immense parc Songhanhai. Pendant cette marche bucolique, le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un communiqué sur la guerre en Iran, appelant à un cessez-le-feu complet et durable le plus rapidement possible et à la rouverture des routes maritimes au plus vite. Pékin a ensuite chargé Washington en déclarant que cette guerre n'aurait jamais dû démarrer. Si Donald Trump a affirmé que les accords commerciaux trouvés étaient fantastiques, les discussions étaient tendues sur les sujets diplomatiques et notamment sur Taïwan. Hier, le président chinois a agité la menace d'une opposition, voire d'un conflit, en cas de mauvaise gestion du dossier taïwanais, en réaffirmant que c'était le sujet le plus important de la relation sino-américaine. Mais dans la soirée, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est voulu rassurant vers Taipei sur NBC en déclarant, je cite, que la politique américaine concernant Taïwan restait inchangée à ce jour. Taipei a déclaré hier qu'aucun événement surprenant n'était ressorti du sommet entre les dirigeants chinois et américains à Pékin, mais que la Chine devait mettre fin à sa pression militaire sur Taïwan, car c'est elle, je cite, la seule véritable menace pour la paix dans la région. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a confié sur CNBC hier soir que le président américain s'exprimerait sur le sujet dans les prochains jours.
Merci Étienne Henry à Taïwan. Et sur la question du détroit d'Ormuz, les Iraniens s'expriment et ils assurent depuis hier qu'ils laissent passer tous les navires chinois. Ils sont plus de 30 à avoir été autorisés, selon la télévision d'État à Téhéran. Et puis une alerte aux drones ce matin en Finlande. C'est l'aéroport d'Helsinki qui a dû suspendre son trafic pendant 3 heures dans ce contexte où les échanges de tirs se multiplient depuis quelques jours entre l'Ukraine et la Russie.
7h33, c'est le jour J pour Jerome Powell.
Il quitte la présidence de la Réserve fédérale aujourd'hui après 8 ans de mandat. Et donc Étienne Brac, au-delà de ces pressions permanentes de Donald Trump, qu'est-ce qu'on retient de cette ère Powell?
La plupart des économistes saluent le mandat de Jerome Powell qui aura réussi à faire passer l'inflation de près de 9% en 2022 à peu près 3% en début d'année avant la guerre en Iran, sans déclencher de récession majeure ni d'explosion du taux de chômage. C'est quand même un exploit rare dans l'histoire de la Fed, sans compter qu'il aura réussi à défendre l'indépendance de la Banque centrale américaine, ce qui était loin d'être facile puisque, pour rappel, c'est Donald Trump qui l'a nommé en 2018. À l'inverse, comme beaucoup de banques centrales, il a sous-estimé l'inflation en 2021 et 2022. Le transitoire a été bien plus long que prévu à la sortie de la pandémie et Jerome Powell n'aura pas réussi à rejoindre la cible d'inflation de 2%. Pour rappel, l'inflation est de 3,8% le mois dernier. Autre point marquant, la faillite de SVB, Silicon Valley Bank, en 2023, qui aurait pu être systémique pour le secteur bancaire. Heureusement, la Fed a réussi à éteindre l'incendie, mais ça reste quand même un caillou dans la chaussure de Powell, qui a publiquement reconnu que la Fed avait failli dans son rôle de superviseur.
Son successeur, Étienne, c'est donc Kevin Warsh qui va prendre la suite, désormais attendue au tournant, notamment sur les baisses de taux voulues par Donald Trump. C'est vrai qu'il arrive dans un contexte très compliqué.
Avec Warsh qui hérite d'une mission quasi impossible, c'est-à-dire combattre l'inflation qui est des plus hauts de 2023, tout en essayant de satisfaire le président Trump qui est impatient. À très court terme, le marché n'attend pas grand-chose de Warsh. Un statu quo est anticipé pour l'ensemble de l'année, d'autant plus qu'il ne peut pas choisir seul. Il va devoir composer avec les 12 membres votants à chaque réunion. À moyen terme, c'est sa lecture de l'économie et l'exécution qui va avec qui est attendu, d'autant plus que Kevin Warsh est très optimiste sur l'intelligence artificielle. Il pense que l'IA va augmenter la productivité, la croissance, mais sans pour autant provoquer beaucoup d'inflation. Et puis sur la communication, Warsh a dit dernièrement qu'il jugeait que la Banque centrale américaine parlait trop, notamment au marché. Donc il faut donc s'attendre à moins de communication, moins d'indices sur la politique à suivre de la Banque centrale américaine.
Merci Étienne Braque. Kevin Warsh, qui a d'ailleurs reçu hier soir les félicitations de Christine Lagarde et les deux banquiers centraux, vont se retrouver dès ce lundi à Paris dans le cadre du G7 Finance qui a lieu à Bercy. BFM Business sera évidemment sur place. Dans le même temps, l'ancien président de la BCE, lui, a reçu à Aix-la-Chapelle hier le prestigieux prix Charlemagne qui récompense l'engagement en faveur de l'unification européenne. L'occasion pour lui de prononcer un nouveau discours remarqué, Raphaël Legendre, avec un appel au sursaut européen.
Oui, Léo, l'ancien patron de la BCE explique que le continent fait face à trois urgences absolues. La première, c'est évidemment de retrouver la croissance. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est, c'est la nouvelle estimation de Mario Draghi de 800 milliards d'euros dans son rapport. On est passé à 1200 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an, selon lui, pour financer notre besoin, notre transition énergétique et notre révolution technologique. La deuxième urgence, c'est de parachever enfin le marché intérieur. Mario Draghi explique que signer des accords internationaux de libre-échange, c'est bien, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Il donne ce chiffre, 0,5 points de croissance supplémentaire tout au plus. Le véritable chantier pour lui, bel et bien de compléter l'unification du marché intérieur, faire sauter toutes les barrières normatives et réglementaires intra-européenne qui plombe notre potentiel de croissance. Et puis enfin, il y a le choc technologique. Les États-Unis investiront 5 fois plus que l'Europe dans les data centers d'ici 2030, rappelle l'ancien président de la BCE. Il faut absolument que l'Europe accélère dans la course à l'IA. Au final, le message reste fondamentalement le même depuis son fameux rapport. Soit l'Europe fait le choix de la puissance, soit elle disparaîtra.
Merci Raphaël Legendre. On vous retrouve à 9h30 aux manettes des experts sur BFM Business. 7h37, on poursuit avec les manœuvres qui s'intensifient pour remplacer Keir Starmer.
Oui, c'est hier le ministre de la Santé Wes Streeting qui a démissionné dans une lettre très critique. Alors si lui est plutôt classé à droite des travaillistes, les autres frondeurs et prétendants au poste de Premier ministre sont positionnés sur l'aile gauche du parti. De quoi donc pousser les milieux économiques à tout simplement soutenir Keir Starmer, Clarisse Marion?
La City craint une remontée de la surtaxe sur les bénéfices des banques soutenue par l'aile gauche du parti travailliste. Elle avait été abaissée de 8 à 3% par le précédent gouvernement conservateur. Le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, a fait comprendre que certains investissements de la banque américaine à Londres pourraient dans ce cas être remis en cause. Un soutien indirect à Keir Starmer, également porté par la directrice générale d'Aviva, l'un des plus grands groupes financiers britanniques, qui se plaint des conséquences de la tourmente politique sur le secteur privé. Elle évoque trop de changements de stratégie gouvernementale et de dirigeants. Le bon chiffre du PIB du premier trimestre en hausse de 0,6% est un signal positif pour Keir Starmer. Il prolonge une série d'indicateurs favorables depuis le début d'année, recul inattendu du chômage en février et baisse de l'inflation.
7h38, la bourse. Étienne Braque, cette introduction historique à Wall Street hier pour Cerebras.
Et un titre qui a quasiment doublé dans l'après-midi, dans les premières heures de cotation. C'est la plus grosse introduction de l'année à la bourse de Wall Street. Le groupe a levé plus de 5 milliards de dollars. C'est un groupe qui a été créé par des anciens d'AMD qui fabriquent des puces pour faire tourner l'intelligence artificielle. Ils ont notamment noué un contrat ces dernières semaines avec OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Et comme sur l'ensemble des valeurs liées à l'IA et liées aux semi-conducteurs, on a une explosion, une euphorie avec donc un titre qui a finalement clôturé sur une hausse de 68% à la clôture. Aujourd'hui, vous avez une capitalisation boursière qui frôle les 100 milliards de dollars, sachant que cette entreprise ne gagne pas d'argent mais promet un carnet de commandes historique avec donc notamment cette commande de OpenAI. Le Dow Jones a retrouvé ses niveaux de février hier, plus 0,7%. Le Nasdaq a touché un nouveau record, 7500 points, grâce notamment à Nvidia qui qui a gagné plus de 4% à la clôture. Jiang Zemin, qui fait partie du déplacement de Donald Trump en Chine, a visiblement noué des contrats, d'après Reuters, notamment en ce qui concerne les puces H200. Et ça a permis à Nvidia de toucher à un plus haut, avec quand même aujourd'hui une capitalisation boursière de 5 700 milliards. C'est de loin la plus grosse capitalisation boursière mondiale.
Merci Étienne. Dans un instant, le grand entretien avec notre invité Olivier Cohn, directeur général des hôtels Best Western en France. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Et ce matin, focus sur l'industrie hôtelière avec l'un des acteurs du paysage, c'est Best Western. Bonjour Olivier Cohn.
Bonjour.
Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes directeur général des hôtels Best Western en France. Deuxième marché, la France, pour votre groupe derrière les États-Unis. 334 établissements en France sur les 4000 que compte votre groupe dans le monde. On va parler avec vous d'intelligence artificielle qui transforme aussi votre secteur, de votre développement, de vos projets. Mais commençons peut-être par l'actualité, le Moyen-Orient, vous avez une trentaine d'établissements dans les pays du Golfe, ils sont vides.
Alors la situation est très difficile. Alors elle a été très très difficile au début de cette guerre. Depuis quelques jours maintenant ou quelques semaines on va dire, avec l'apaisement de la situation, on voit le marché qui reprend légèrement, avec des situations un peu différentes en fonction des pays. Ça se passe mieux en Arabie Saoudite qu'aux Émirats Arabes Unis, où finalement en Arabie Saoudite il y a un marché local qui est un peu plus fort. Il y a un tourisme religieux également qui permet au marché de rebondir un peu plus fortement, mais on reste sur un marché qui est très sacrément perturbé, en tout cas pour le moment.
Dans les autres hôtels, on en est où à peu près? Comment rebondit la fréquentation? Quel est le taux d'occupation moyen?
Alors, on a été aux alentours des 10% au milieu de cette guerre. Là, on est aux alentours des 30-35%. Donc, vous voyez que ça repart, mais on n'est pas encore sur des taux d'occupation qui permettent une activité normale.
Il n'y a pas de chômage partiel pour les salariés là-bas, j'imagine. Ça ne se passe pas comme ça.
Ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
Est-ce que vous conservez toutes les équipes? Est-ce que vous avez dû réduire la voilure?
Alors, pour l'instant, toutes les équipes ont été conservées, puisqu'on a espoir que ça reparte assez rapidement. Donc après, tout dépendra un peu de ce qui va se passer, mais on espère que, justement, avec le retour du trafic aérien, qui est quand même la clé sur ces marchés-là, on voit comment ça commence à repartir. On pense que ça repartira assez rapidement au mois de juin, si
Il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes, à vrai dire.
C'est un marché qui est perturbé et qui va dépendre des annonces d'un côté ou de l'autre.
Difficile pour votre groupe, difficile globalement pour votre industrie, dans cette zone géographique pourtant de croissance et de forts investissements avec une clientèle aisée. Est-ce que la situation que vous vivez pousse à revoir les ambitions du groupe et de développement dans cette région-là?
Pour l'instant, non. On revoit pas les ambitions à la baisse.
Aucun projet annulé, aucun projet repoussé.
Il y a des projets qui sont un peu repoussés. Il y a de l'attentisme, mais ça, c'est normal.
Quel projet? Des projets de construction.
Des projets de construction, exactement. Oui, il y a beaucoup de projets de construction sur ces pays-là.
Ils doivent se faire où?
En Arabie Saoudite, aux Émirats. Franchement, c'est un marché qui explose. C'est un marché très dynamique, donc des projets de construction, il y en a beaucoup.
Donc
aujourd'hui, ils sont un petit peu ralentis, mais ça reviendra. Donc c'est aujourd'hui 7 à 8 projets qui sont en cours de construction.
Mais donc repoussé de combien?
3 à 6 mois pour l'instant.
D'accord. Avec une espèce de clause de revoyure, j'imagine, en fonction de l'évolution de la situation.
Bien sûr.
Potentiellement, ça pourrait être plus long si jamais il n'y a pas d'amélioration.
Bien entendu. On est très dépendant de ce qui va se passer sur l'actualité géopolitique.
Quelle stratégie vous mettez, pour terminer sur ce dossier, en place pour continuer à remplir les hôtels? Est-ce que vous baissez les prix? De combien? Enfin, est-ce que vous revoyez un peu la stratégie pour essayer de faire remonter cette fréquentation?
Alors, il y a des stratégies de revenue management qui sont mises en place, mais vous savez, on va être très honnête, dans une période comme celle-là, quand il n'y a pas de marché, vous pouvez baisser vos prix de 10 ou 15%, c'est pas ça qui va faire un rebond. Parce que
on a
marché
vu pourtant dans
très...
des villes comme Dubaï, les prix s'effondrer dans l'hôtellerie pour essayer de ramener de la clientèle.
Le marché le plus important pour nous, c'est l'aérien. Si l'aérien revient et revient à un rythme normal, les établissements hôteliers retrouveront un niveau d'activité correct. Donc là, on commence à revoir cet aérien qui revient. Donc il y a des efforts qui sont faits sur les prix, il y a de la flexibilité sur les conditions de réservation et d'annulation pour justement proposer une simplicité dans l'offre.
Mettre de la souplesse,
mais le prix n'est pas juste l'argument sur ce marché-là en ce moment.
Il y a une autre région du monde où vous trouvez de la croissance, c'est l'Afrique du Nord, particulièrement le Maroc, où vous avez beaucoup de projets de développement.
Oui, c'est un marché sur lequel, en tout cas, la France est responsable du développement. C'est un marché qu'on observe depuis quelques années maintenant. Et puis, on a décidé l'année dernière d'accélérer sur ce marché-là. On a deux établissements qui étaient sur Casablanca et sur Darlin. Et au vu du développement de ce pays-là, des opportunités, de la Coupe du Monde en 2030 qui arrivera, eh ben, on a décidé de se lancer. Donc, on a bâti une structure économique sur place, une filiale pour le groupe. On a un contrat de partenariat en développement et on a déjà signé une dizaine d'établissements depuis fin d'année dernière.
Pour 2030, l'objectif, c'est d'avoir combien d'hôtels au Maroc ?
De passer de 2 à 25.
Ah oui, donc c'est beaucoup là.
Oui, et c'est une accélération qui devrait largement tenir.
C'est un projet ambitieux. On entend beaucoup les hôteliers se plaindre des réservations en ce moment aux États-Unis à l'approche du mondial prochain. Quid de Best Western ?
Alors c'est un autre marché historique, hein, c'est le marché sur lequel on est le plus présent, un peu plus de 2000 hôtels. Alors tout dépend un peu des localisations. J'ai entendu dire qu'en effet sur les grandes destinations qui vont être impactées par le mondial, il y avait des petits soucis de retour de clients. Sur les villes secondaires, sur les grandes plaines, etc., l'activité semble plutôt bien orientée.
Best Western, vous l'avez rappelé, hein, c'est un groupe américain. Vous avez quelques hôtels en Chine, mais c'est clairement pas un de vos plus grands marchés. C'est-à-dire que c'est un marché déjà très concurrentiel. La Chine, c'est pas une région du monde où vous allez accélérer, où vous allez déployer votre énergie.
Alors c'est un pays dans lequel on essaye de se déployer, mais c'est vrai que c'est un pays qui est compliqué, où il y a déjà des très grandes chaînes présentes et des chaînes chinoises, hein, et puis il y a un patriotisme économique très fort en Chine, donc on essaye de se développer sur les grandes destinations, là où nos clients internationaux ont des besoins et des demandes, mais c'est vrai que on n'aura certainement pas tout de suite le rayonnement qu'on peut avoir sur d'autres territoires.
L'hôtellerie est touchée par l'intelligence artificielle également, notamment en ce qui concerne la partie réservation. On n'en est qu'au début, mais on voit les grandes marques de l'hôtellerie s'y mettre. Où est-ce que vous en êtes-vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous testez aussi, les agents IA, pour réserver sa nuit d'hôtel ?
Alors, ce sont des investissements très forts qu'on mène dans plusieurs dimensions. Il y a toute une partie autour de la réservation. L'idée étant de pouvoir proposer à nos clients de réserver leur établissement directement sur leurs outils d'IA, mais c'est aussi d'utiliser l'IA dans les opérations au quotidien pour simplifier les choses, simplifier les parcours clients et s'assurer qu'en fait on puisse passer plus de temps à accueillir et faire notre métier auprès de nos clients que d'être derrière un ordinateur à faire une procédure de check-in ou check-out. Donc en fait, l'IA, c'est à la fois de la distribution, mais c'est aussi beaucoup une manière d'accompagner, de simplifier nos process.
Mais on n'en est qu'au début, non ? Pour l'instant, c'est vraiment très résiduel, cette part-là.
Alors, sur la partie réservation, on est encore au tout début. Ça représente
avec
aujourd'hui
des améliorations à faire, j'imagine, parce qu'on a beaucoup de retours aussi. L'IA n'est pas capable de répondre à toutes les questions qu'on peut poser à un opérateur.
Et nous-mêmes n'avons pas toutes les réponses aux questions auxquelles parfois l'IA nous présente. En tout cas, c'est vrai que les clients ont tendance à se lâcher un peu plus sur les questions qu'ils posent. Et elles sont beaucoup plus développées que ce qui se passe sur un site internet où c'était très structuré.
De quel type ?
Est-ce que il y a une prise à gauche du lit, quelle est la couleur de la chambre ou la tête de lit. Donc on a plein de questions comme ça supplémentaires. Donc à nous maintenant aussi
d'entraîner
l'IA et surtout de lui donner ce contenu-là auquel on n'avait pas pensé par le passé.
Quels sont les objectifs que vous vous donnez avec l'intelligence artificielle? Est-ce que vous allez la mettre au cœur de votre politique? Est-ce que c'est un moyen aussi de faire des économies? Parce qu'on sait que quand on passe par les bookings et les sites de réservation, les hôtels paient une commission. Il y a un gain économique aussi potentiellement avec les intelligences artificielles sur ce niveau?
Alors, c'est assez difficile à dire aujourd'hui. On a pour ambition, en effet, d'investir massivement pour que ça représente une part significative de nos réservations dans le futur. Aujourd'hui, c'est très faible. Maintenant, le business model avec les différents opérateurs n'est pas vraiment établi. Aujourd'hui, en effet, ce sont des réservations peu coûteuses. Demain, me paraît assez logique que les OpenAI, les Claude de ce monde, imagineront un peu comme Google une forme de péage. Donc on peut imaginer qu'il y aura de la commission, qu'il y aura un business model à imaginer avec ces gens-là. Donc est-ce qu'on va pouvoir un peu changer la structure du marché ? Je l'espère. Est-ce qu'elle va être complètement transformée ? C'est très compliqué à dire aujourd'hui.
Merci beaucoup Olivier Cohn, directeur général des hôtels Best Western en France, d'être venu nous parler de tous ces sujets, l'immobilier aussi au cœur des secteurs économiques en changement dans les événements que nous vivons. Dans un instant, on va se retrouver avec l'actualité, Léo Dumas, le journal, et on reprendra la direction de Washington pour faire un peu le point sur les deux jours d'échange entre le président américain et le président chinois. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Erwan Morris.
Bientôt 8h sur BFM Business dans votre matinale écho. À la une de ce vendredi 15 mai, le dernier jour de la visite d'État très commentée de Donald Trump en Chine. Les observateurs en attendaient beaucoup. Alors oui, elle marque une forme d'apaisement des relations commerciales entre Pékin et Washington. Même si l'on attend encore des résultats tangibles, Donald Trump parle d'accords commerciaux fantastiques sans que l'on en connaisse encore précisément la substance. En tout cas, derrière les contrats, cette visite n'a pu dissimuler des divergences qui restent très importante. Le récit à suivre de nos correspondants à Washington et à Taïwan. Pendant ce temps-là, Jérôme Powell fait ses cartons. Le patron de la Fed, qui a résisté jusqu'au bout à Donald Trump, cède son siège à Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale, qui va avoir la lourde tâche de baisser les taux dans une conjoncture particulièrement difficile. Explication d'Étienne Braque à 8h30. L'actualité en temps réel, c'est aussi avec vous, Léo Dumas. Les titres ce matin.
Stellantis relance une alliance en Chine pour fabriquer des Peugeot. LVMH confirme la vente de marques Jacobs, et puis une IPO fracassante hier à Wall Street.
8h15, la French Tech, une innovation pour répondre en partie à la pénurie de dermatos. 8h20, dans Parole de Patron, on parlera de souveraineté dans les puces avec un acteur qui produit en France. 8h30, le before de la séance boursière avec Étienne Braque et nos spécialistes marché.
Good morning business, le journal.
Et c'est donc l'ultime face-à-face entre Donald Trump et Xi Jinping. Le président américain est sur le point de décoller.
Oui, son avion est prêt sur le tarmac, mais après Taïwan hier, c'est sur l'Iran que le ton est monté ce matin en marge du sommet. Cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu n'a aucune raison de se poursuivre. C'est ce que dit Pékin par voie de communiqué en réclamant la réouverture dès que possible du détroit d'Hormuz. Alors, aux côtés de Xi, ce matin, Donald Trump lui dit que les points de vue convergent sur cette question iranienne. Et Antoine Forestier, depuis Washington, le président américain assure même avoir obtenu des gages de son homologue chinois sur les liens militaires qu'il entretient avec les Iraniens.
Oui, vous en rappelez, avant le début de ce sommet, le New York Times avait révélé que des entreprises chinoises de défense comptaient envoyer des armes en Iran via des pays tiers pour plus de discrétion. Les États-Unis souhaitaient obtenir une clarification de la Chine à ce sujet. Et bien, selon Donald Trump, qui s'est exprimé sur Fox News il y a quelques heures, Xi Jinping ne compterait plus envoyer d'armes à l'Iran. Je vous propose d'écouter le président américain tout à l'heure.
Xi Jinping a dit qu'il ne fournirait pas d'équipement militaire. C'est une déclaration importante. Il l'a dit aujourd'hui et il l'a affirmé. Mais avec force.
Il y a quelques minutes, le ministre des Affaires chinois a indiqué pour sa part qu'il souhaitait que le cessez-le-feu se poursuive et que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Les deux hommes, Donald Trump, Xi Jinping, vont continuer de discuter aujourd'hui. Ils doivent prendre le thé en ce moment même, puis un déjeuner. Et ensuite, Donald Trump retournera ici à Washington.
Antoine Forestier à Washington. Alors, sur les questions commerciales, maintenant, Donald Trump s'est montré très satisfait de cette visite. On l'écoute ce matin aux côtés de Xi Jinping. Écoutez.
Nous avons conclu d'excellents accords commerciaux, excellents pour les deux pays. C'est un homme que je respecte énormément. Nous nous connaissons depuis 11 ans maintenant, presque 12. C'est long et nous avons résolu beaucoup de problèmes différents que d'autres n'auraient pas pu résoudre. La relation est très solide.
Voilà, alors pas plus de détails que ça sur les accords commerciaux, pas de confirmation chinoise non plus, même si Donald Trump a donné quelques indices hier soir sur Fox News, Nathan Cocampo.
200 gros avions Boeing, c'est ce qu'aurait promis d'acheter Xi Jinping à Donald Trump selon les mots du président américain. Rien d'officiel donc, et on est très loin des 500 avions monocouloirs 737 Max évoqués par la presse depuis plusieurs mois. Sur Fox News, Donald Trump assure aussi que la Chine veut lui acheter plus de pétrole pour réduire sa dépendance à Hormuz et aussi du soja américain, mais sans non plus donner de chiffres. Même optimisme de Jamison Greer, le représentant américain au commerce, qui s'avance un peu plus, évoque la signature d'un contrat d'ampleur après la visite de Trump autour de dizaines de milliards de dollars d'achats de produits agricoles au cours des trois prochaines années.
Par ailleurs, Nathan, les États-Unis assouplissent leurs restrictions commerciales avec la Chine.
Selon Reuters, Nvidia va pouvoir vendre ses puces H200 à 10 entreprises chinoises, Alibaba, Tencent, ByteDance. La H200, c'est la deuxième puce IA la plus puissante du groupe. L'administration américaine donnerait son feu vert à l'achat de 75 000 puces par client. Jensen Huang avait rejoint en dernière minute la délégation américaine. Enfin, toujours dans cette dynamique d'assouplissement des relations, les responsables américains évoquent dans la presse la possibilité de créer un nouvel organisme, un conseil du commerce pour mieux gérer les relations commerciales et surtout réduire les taxes et les barrières commerciales sur les biens non essentiels qui ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité nationale. Sur CNBC, Scott Bessent précise qu'une des solutions envisagées repose sur une réduction des droits de douane sur 30 milliards de dollars d'échanges commerciaux.
Merci Nathan Cocampo. Dans l'actualité des entreprises, des annonces de Stellantis ce matin.
Le constructeur qui relance son partenariat avec son allié chinois historique, le groupe Dongfeng. Ils vont produire ensemble des Peugeot et des Jeep directement sur place en Chine, Adrien Guillaume Padovan.
De nouveaux véhicules Peugeot électrifiés et deux Jeep tout-terrain rechargeables arriveront sur les lignes de production de Wuhan en 2027. Des modèles coproduits par Stellantis et Dongfeng à destination de la Chine, mais aussi des marchés internationaux. 1 milliard d'euros sont sur la table, dont 130 millions d'euros de Stellantis. Une nouvelle page s'ouvre dans un partenariat qui dure depuis 34 ans entre les deux alliés industriels. Ces dernières années, Stellantis avait progressivement réduit sa présence industrielle en Chine à cause de ventes trop faibles. Dans son communiqué, Antonio Filosa explique désormais vouloir capitaliser davantage sur leurs atouts respectifs. Cette annonce de production commune intervient dans un contexte où Stellantis envisagerait en Europe de vendre une partie de ses usines au groupe chinois. La presse évoque un site en Italie, en Allemagne et l'usine de Citroën près de Rennes, où une délégation de Dongfeng serait d'ailleurs venue récemment. Stellantis compte aussi vendre son usine à Madrid à son autre associé chinois, Leapmotor. Dongfeng, Leapmotor et bientôt BYD, le constructeur serait aussi en négociation pour reprendre des sites inactifs en Europe.
Accord définitif aussi pour la cession de Marc Jacobs par LVMH, c'est le fonds d'investissement américain WHP Global qui va reprendre la marque d'ici à la fin de cette année, montant la transaction pas dévoilée mais estimé à 1 milliard de dollars par le Wall Street Journal.
À Wall Street hier, Léo, une entrée en bourse fracassante.
Oui, celle de Cerebras, dont le titre a progressé de 68% à la clôture, de quoi porter sa capitalisation à presque 95 milliards de dollars. Cerebras, qui est un spécialiste des processeurs géants et qui tente de concurrencer Nvidia, Clara Bidot.
Fondée il y a 10 ans en Californie par l'entrepreneur américain Andrew Feldman, Cerebras Systems fait aujourd'hui partie des entreprises qui affolent la Silicon Valley. Les chiffres donnent le tournis, une activité en hausse de 76% sur un an pour un chiffre d'affaires de plus d'un demi-milliard de dollars. Le fabricant s'est spécialisé dans les puces capables de faire tourner des modèles d'IA avancés. Pour se démarquer, il mise sur des puces géantes, des plaques de silicium de la taille d'une assiette, jusqu'à 58 fois plus grandes que certaines cartes graphique de Nvidia. L'entreprise cherche maintenant à moins dépendre de ses deux principaux clients, basés aux Émirats Arabes Unis, le groupe GP42 et l'université Mohamed Bin Zayed. Et les géants du secteur de l'IA se bousculent. OpenAI a signé un accord de 20 milliards de dollars avec le fabricant. Amazon, Meta ou encore Mistral AI font aussi partie des clients.
Dans la course à l'IA, Grok est en mauvaise passe.
Oui, Elon Musk ambitionnait d'en faire l'IA la plus populaire du monde, mais selon les derniers chiffres, son outil est en train de perdre de plus en plus de terrain sur ses concurrents OpenAI et Anthropic, Mathilde Chaminade.
Ils étaient plus de 20 millions en janvier à avoir téléchargé Grok contre seulement 8,3 millions le mois dernier. Une chute qui laisse l'IA d'Elon Musk à la traîne par rapport à celle de ses concurrents. Plus de 50 millions de téléchargements le mois dernier pour ChatGPT, 32 millions pour Gemini de Google et près de 20 millions pour Claude d'Anthropic. D'autant que le pic de téléchargement observé en début d'année pour Grok était surtout lié à une mise à jour permettant aux utilisateurs de déshabiller virtuellement une personne sur une photo. L'accès à cette fonctionnalité a depuis été limité. Ce retard s'explique par une croissance quasi inexistante du côté des grandes entreprises, des fonctionnalités controversées et une forte dépendance au réseau social X qui perd lui-même des utilisateurs. XAI, la start-up à l'origine de Grok, a récemment été réorganisée et fusionnée avec SpaceX, une entreprise qui va s'introduire en bourse cette année, une des plus grandes de l'histoire. SpaceX vise une valorisation de plus de 2000 milliards de dollars, ce qui pourrait permettre à Elon Musk de relancer son IA.
Et on reparlera de semi-conducteurs à 8h20 dans Parole de patron avec Damien Tulleux, vice-président exécutif directeur de la branche électronique de Merck qui développe l'industrie en France.
Et puis il est 8h08, moins d'un mois avant le mondial de foot et alors que Didier Deschamps vient de révéler sa liste pour l'équipe de France, les organisateurs, eux, sont contraints de réagir face aux polémiques, notamment sur les tarifs exorbitants de cette compétition. Les fans internationaux ont dû casser leur tirelire pour trouver des places. Avec en plus le coût des transports et celui des visas, les autorités américaines sont donc obligées d'ajuster le tir en catastrophe, Paul Valère.
Pour les supporters algériens, tunisiens, ivoiriens ou sénégalais, c'est un soulagement. Ils devaient, pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, verser une caution de 5 000 à 15 000 $, dispositif instauré par l'administration Trump dans sa lutte contre l'immigration. Face aux critiques, la Maison-Blanche renonce, mais attention, cette exemption ne s'appliquera qu'aux seuls détenteurs de billets s'étant inscrits sur la plateforme de visa mise en place par la FIFA. Autre polémique qui a poussé l'organisation à faire marche arrière, le prix stratosphérique des transports en commun, qui ont finalement été revus à la baisse. L'aller-retour en train entre Manhattan et le MetLife Stadium à New York, fixé au départ à $150, est passé à 105 puis à $98, encore bien supérieur aux $13 habituels. Le billet de bus, lui, est abaissé de 80 à $20 pour tenter de calmer la colère des fédérations de supporters.
Voilà pour le récit de Paul Valère. Prochain point sur l'actualité à 8h30. Tout de suite, la bourse.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre rendez-vous avec Moneta Asset Management. Chez Moneta Asset Management, nous analysons, sélectionnons, investissons en actions pour votre épargne.
Étienne Braque, à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture du marché parisien ?
Du rouge, moins 0,9% pré-ouverture. Après un gain de 0,9% hier, les marchés continuent de faire du yo-yo. Et alors, que dire des valeurs technologiques en Asie ? Vous avez Skynix qui perd 8% ce matin, après avoir enchaîné les records ces dernières heures. Souvenez-vous, hier, on était à la porte des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour ce fabricant de puces mémoire, avec des déclarations, une nouvelle fois, de Donald Trump, qui font réagir les marchés. Puisque Donald Trump a très clairement dit qu'il commençait à perdre patience en ce qui concerne la situation en Iran et le détroit d'Hormuz. Donc le marché, qui est toujours dans l'anticipation, craint le pire. Et puis surtout, le vendredi n'est jamais un jour sur lequel vous avez des investisseurs qui prennent beaucoup de risques, parce que vous savez jamais de quoi il peut se passer dans le week-end. Le baril de pétrole est à $107 ce matin. Du côté des États-Unis, hier soir, on a une nouvelle fois touché des plus hauts, avec notamment le S&P 500 qui a touché pour la première fois les 7500 points. Tiré encore et toujours par les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Et puis la valeur qui a fait un carton hier, c'est Cerebras. C'est un groupe qui fabrique des processeurs, des puces pour faire tourner l'intelligence artificielle. Le groupe a levé plus de $5 milliards. Pour l'instant, c'est la plus grosse introduction en bourse de l'année à Wall Street. Et le titre a gagné 68% hier soir à la clôture, quasiment 100 milliards de dollars de capitalisation boursière pour un groupe qui, pour l'instant, ne gagne pas d'argent, mais qui vend du rêve, qui a notamment signé un contrat dernièrement avec OpenAI, contrat à plus de $20 milliards pour fournir 750 mégawatts de puissance de calcul. C'est l'équivalent quand même d'un réacteur nucléaire.
Ça va encore propulser la bourse de New York, cette histoire.
Ah bah 68%, oui. Alors, en plus de cela, vous avez aujourd'hui Anthropic qui vous dit on va lever $30 milliards. Sachant qu'ils ont déjà levé 30 milliards en février. En février, Anthropic s'était valorisé environ $400 milliards. Là, tour de table en cours, $900 milliards. Parce que vous avez Google, vous avez Amazon qui a envie de participer à cette opération. D'autant plus qu'Anthropic pourrait rentrer en bourse cette année.
Et le marché parisien, donc vous disiez du rouge à l'ouverture, on est à 8082 hier à la clôture. On verra si le CAC 40 conserve les 8000 points en cette fin de semaine. Avec vous, Étienne Braque, Good Morning Market, à partir de 9h. 8h11, la tech.
Good Morning Business.
Culture IA.
Anthony Morel, et si la ville du futur était construite non plus en béton, mais en chêne, en mélèze, en peuplier, du bois ou plutôt du super bois aussi résistant que l'acier?
Ouais, c'est ça, grâce à toutes les avancées dans le domaine de la science des matériaux, c'est un domaine qui me passionne. Et effectivement, de la même manière qu'on a aujourd'hui du béton armé renforcé, eh bien on pourrait avoir demain du bois armé. Il y a un certain nombre de start-up qui travaillent sur le sujet, start-up françaises notamment, je pense par exemple à Woodoo, il y a des Américains également, Inventwood, et ils ont mis au point un bois effectivement augmenté, si l'on peut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut partir du principe que le bois, si vous ne le savez pas, c'est un gruyère en fait. Au niveau moléculaire, à l'intérieur, c'est tout poreux, c'est plein de trous. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre du bois classique et on va venir, encore une fois, au niveau moléculaire, le renforcer en y injectant une résine naturelle qui va lui donner des propriétés extraordinaires. Des propriétés de solidité, on se retrouve avec un bois qui est 20 fois plus résistant qu'une poutre de bois classique. On va se retrouver avec un bois qui est très résistant au feu, ce qui est assez pratique pour du bois, qui est imputrescible également, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pourrir, il va résister à l'humidité. Et donc à partir de ça, on peut imaginer effectivement les villes du futur, pourquoi pas, sachant que l'autre argument, c'est que on va aussi pouvoir utiliser des bois dits non nobles, le peuplier, le balsa, le pin des Landes, et ça permet également de mieux exploiter les forêts françaises qui ne le sont pas toujours assez.
Des espèces de villes-forêts finalement, est-ce qu'on pourrait un jour voir des gratte-ciels en bois?
Oui, on pourrait, parce qu'en fait l'avantage, il y a déjà des structures en bois, on en voit de plus en plus, des immeubles, mais ils sont relativement peu hauts, justement pour ces questions de solidité. Avec ces nouvelles générations de bois augmentés, on pourrait construire des gratte-ciels absolument immenses. C'est un projet qui est en train de voir le jour au Japon. À l'horizon 2041, le conglomérat Sumitomo veut construire le plus haut gratte-ciel du Japon, 350 mètres de haut, donc c'est plus haut que la Tour Eiffel, intégralement en bois, 90%, il y aura un petit peu d'acier quand même. Et donc l'avantage, au-delà du côté solide, c'est aussi l'avantage esthétique, et ça intéresse énormément les urbanistes, c'est-à-dire que dans un paysage urbain qui est tout d'acier, de béton et de verre, on retrouve une forme de chaleur qui est aussi intéressante, et puis il y a un avantage également écologique, puisque le bois est 3 fois moins énergivore que le béton, 17 fois moins que le verre, 130 fois moins que l'acier, 475 fois moins que l'aluminium, sans compter qu'il est aussi souple, donc pour les tremblements de terre par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc c'est un matériau vraiment qu'on va voir de plus en plus dans les villes du futur.
Il va falloir planter encore plus de forêts. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi voir d'autres usages?
Oui, absolument, parce qu'on peut aussi combiner ce bois avec de l'électronique, et donc on peut imaginer des planches en bois qui se transforment en écran tactile, peut-être pas pour un smartphone, mais par exemple dans des voitures, dans des tableaux de bord, pour l'industrie du luxe également. Donc il y a vraiment plein de débouchés. Le bois, c'est peut-être effectivement le matériau du futur.
Merci Anthony. Vous restez avec nous. Tout de suite, on accueille notre invité French Tech.
Good morning business, French Tech.
Est-ce que, Anthony, vous aussi, vous avez du mal à avoir un rendez-vous chez le dermato?
C'est très, très compliqué.
C'est vrai. C'est pas un hasard. Il y a de moins en moins de dermato. En réalité, ça, les chiffres le montrent. En 10 ans, la France a perdu presque 20% de professionnels. Aujourd'hui, le délai moyen pour avoir un rendez-vous, c'est 3 mois. Bonjour, Ali Kachlouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, notre French Tech dans Good Morning Business. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Square Mind. Face à ce constat, vous apportez une innovation qui répond aux besoins cliniques et améliore le temps médical pour aussi aider les dermatos. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Absolument. Bonjour, merci pour l'invitation. Ce qu'on a développé, c'est une première mondiale. C'est un robot qui s'appelle Swan, qui vous permet pour la première fois de numériser, de cartographier l'intégralité de la peau de quelqu'un avec un niveau de définition qui est comparable à celui de la loupe, ce qu'on appelle le dermatoscope, quand vous allez chez le dermato. Et donc, en quelques minutes, on est capable de générer un peu comme des Google Maps de la peau sur lesquels vous pouvez zoomer en tout point. Ce qui a un avantage particulier dans le contexte clinique, ça vous permet d'avoir un suivi particulièrement précis, d'identifier notamment les changements avec ou sans IA. Et donc, c'est une solution qui a été très attendue par la communauté dermatologique, qui est le fruit de plusieurs années de travail et qui va être enfin disponible.
Alors, Squaremind, c'est une entreprise que je suis depuis quelques années, que je trouve fascinante, parce qu'effectivement, cette idée d'avoir un robot dermato, qu'on va décrire pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément visualisable comme ça, c'est une sorte de bras robotique, en fait, équipé d'une caméra, c'est ça. Et donc, faut imaginer le scénario, j'arrive chez le dermato, et avant qu'il ne s'occupe de moi, finalement, il y a ce robot qui va tourner autour de moi et qui va scanner chaque millimètre carré de ma peau, c'est ça, finalement, et aller détecter des anomalies potentielles. C'est ça l'idée, en fait.
Absolument. C'est de, non pas de remplacer le médecin, mais de l'augmenter, de l'assister en automatisant un acte qui est un acte de documentation clinique et donc de capturer de l'information qu'on n'arrivait pas à capturer aujourd'hui, qui est cette fameuse cartographie avec le grossissement de la loupe. Et donc ensuite, une IA prend le relais et identifie les changements. Pourquoi c'est intéressant? En fait, aujourd'hui, 80% des mélanomes, qui est le cancer le plus létal, ce sont des nouvelles taches. Ça apparaît à partir de la peau vierge où il n'y avait pas de grain de beauté existant. Donc vous êtes capable d'identifier la nouveauté et le changement, c'est particulièrement pertinent.
Oui, parce que le médecin humain, même s'il est très bien entraîné, le dermato, on y va une fois au mieux tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, évidemment qu'il ne va pas se souvenir de votre peau il y a 3 ou 5 ans. Donc l'intérêt, c'est que la machine, elle va se souvenir à vie de moi. Et même si je change de médecin, on peut transférer le dossier finalement pour qu'il y ait un suivi à vie de ce Google Maps de ma peau.
Absolument, c'est standardisé. Donc si vous allez dans 2 cabinets où chacun est équipé d'un robot, par exemple, vous pouvez matcher les deux scans et comparer dans le temps.
C'est un peu comme le dentiste qui a une radio des dents et puis qui va regarder d'un rendez-vous sur l'autre aussi pour se souvenir de où était la situation. Il y a quand même de la concurrence, non, sur ce secteur. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler d'innovation dans la dermatologie, pour même avec parfois des applications, je crois, détecter soi-même, analyser ses grains de beauté, non?
La concurrence ou en fait l'essor qu'on voit de solutions démontre quand même d'un pain, d'un besoin clinique qui est aujourd'hui comment j'assiste le médecin dans le cadre de ce dépistage, comment j'optimise le temps médical. La différenciation qu'apporte Swan aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est cette cartographie avec ce niveau de définition qui est encore une fois unique au monde. Et 2, c'est l'automatisation. Donc le fait de rendre cet acte de documentation complètement libre de temps pour le médecin, c'est quelque chose d'innovant. Il faut voir qu'aujourd'hui, le statu quo reste un outil qui a été inventé il y a 30 ans, qui est le dermatoscope, qui est la loupe. Et donc, in fine, Swan, ce qu'on a inventé, c'est un dermatoscope augmenté.
Voilà. Mais là, du coup, vous avez... Alors, l'entreprise existe depuis quelques années maintenant. Est-ce que vous avez réalisé des études cliniques? Est-ce qu'on sait le taux de précision, par exemple, sur la détection d'un mélanome, les faux positifs, les faux négatifs par rapport à un médecin humain? Comment vous vous comparez?
Alors, on ne dépiste pas encore le cancer de la peau. Ça va être la prochaine évolution de l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on cartographie la peau, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. On détecte les changements. La solution aujourd'hui est en phase de pré-déploiement dans un centre hospitalier qui est les Hospices Civils de Lyon, avec un professeur qui est connu mondialement, qui est français dans le domaine du dépistage, et on a vocation dans les prochains mois à publier une étude clinique.
Et vous vous installez donc chez les dermatos, est-ce qu'on peut imaginer aussi avoir ce genre de dispositif, j'allais dire soit dans les pharmacies pour que les gens fassent de l'autodépistage, ou alors dans des déserts médicaux, ou des endroits où vraiment on a du mal à avoir des rendez-vous, et on pourrait avoir une sorte de pré-diagnostic avant d'aller voir le médecin en fait? Ça pourrait être aussi un débouché, j'imagine.
Oui, bien sûr, notre cible naturelle aujourd'hui c'est les dermatologues, en cabinet médical et dans les hôpitaux, mais vous rappelez effectivement, juste titre, le problématique des déserts médicaux, qui n'est pas un problème que français. Beaucoup de Français aujourd'hui n'ont pas accès géographiquement à un médecin, ils doivent parcourir des centaines de kilomètres, et on pourrait parfaitement imaginer cette solution déployée dans un centre, par exemple, pourquoi pas dans un centre de santé, vous venez, vous faites numériser, vous avez un expert, donc un dermatologue, qui peut vous revoir à distance, parce que le grossissement des images le permet.
Le robot coûte 200 000 euros, c'est ça?
Donc vous avez 2 modèles, oui. Vous avez un modèle à l'acquisition, effectivement vous pouvez vous équiper, vous avez un modèle à la location qui est quand même le modèle le plus plébiscité par les cabinets de ville de dermatologie.
Et vous avez plusieurs dizaines de centres médicaux sur liste d'attente pour s'équiper de son robot Swan. Une question pour conclure, peut-être un peu plus d'actualité, mais on sait qu'il y a des soucis d'approvisionnement sur les matériaux, matières premières, notamment le plastique, parce que tout ça vient d'Asie, il y a le détroit d'Ormuz qui est bloqué, les tensions sur les matières premières qui font que les délais ou voire les prix flambent. Est-ce que vous êtes concerné? Quelle mesure?
On est toujours concerné de manière directe et indirecte. Il faut voir aussi que dans ce qu'on fait, vous avez de la demande énorme en termes de compute qui sont portés par l'IA de rappeler juste avant toutes ces sociétés d'IA qui brassent des milliards et qui créent de l'assèchement en termes de matières premières. Donc, évidemment, il faut anticiper en termes de supply chain. Aujourd'hui, tout va bien pour nous, mais ce qui nous sauve, c'est qu'on n'est pas sur des volumétries de plusieurs millions d'unités. Donc, on s'en sort très bien.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Ali Kachlouf, cofondateur, directeur général de SquareMind, notre French Tech ce matin. Dans un instant, parole de patron, on va parler souveraineté dans les puces avec un acteur qui mise sur la production française. À tout de suite.
Good morning business, parole de patron.
Et on parle de souveraineté industrielle ce matin avec vous, Damien Tulleux. Bonjour.
Bonjour. Merci.
Bienvenue, parole de patron avec vous ce matin. Vous êtes le vice-président exécutif et directeur de la branche optronique de Merck, le groupe allemand qui ne fait donc pas que de la pharma, hein, géant de la pharma, mais aussi des semi-conducteurs.
Effectivement, donc Merck est un groupe de science et de technologie donc, qui opère dans trois secteurs technologiques qui sont la santé, comme vous disiez avant, les sciences de la vie, mais aussi l'électronique. Et au sein donc, de l'activité électronique, nous fournissons effectivement donc, avec nos matériaux, nos solutions, chaque étape de la production des semi-conducteurs et même jusqu'à effectivement la production d'écrans que vous utilisez effectivement donc télé et smartphone. Et on peut dire effectivement avec une certaine assurance que 99% des appareils électroniques contiennent des matériaux de Merck.
Et donc l'électronique c'est 15% du chiffre d'affaires du groupe.
Oui.
C'est appelé à plus.
Ah oui, c'est appelé à plus parce qu'effectivement pour l'instant on est vraiment porté par la vague de croissance liée à l'IA. Oui. Donc l'IA effectivement.
Vous aussi vous voulez surfer là-dessus forcément.
On surfe là-dessus par du fait qu'on a été effectivement déjà présent, bien présent dans l'industrie des semi-conducteurs. Et ce que fait l'IA actuellement, c'est qu'elle crée effectivement une sorte de changement de paradigme en passant de la miniaturisation effectivement donc des transistors sur une architecture beaucoup plus complexe.
Vous aussi, vous voulez donc votre part du gâteau dans l'intelligence artificielle. Ça serait bête de s'en priver. Vous venez d'inaugurer près de Grenoble, à Saint-Imier, un site dédié aux puces. Donc vous misez sur la France pour faire contribuer, mettre votre pierre à l'édifice dans ces projets d'IA.
Oui, donc le site de Saint-Imier que nous avons inauguré la semaine dernière et plus ou moins le suivi de l'acquisition que nous avons fait il y a à peu près donc 2 ans maintenant d'une structure donc à Grenoble. Mmh. Et cette société est spécialisée dans la métrologie et l'inspection qui sont nécessaires pour garantir la productivité effectivement de la production des puces et en même temps de pouvoir détecter effectivement donc des impuretés qui sont vraiment effectivement critiques sur la performance encore de ces puces-là. Par exemple, nos plateformes permettent de pouvoir détecter, si je comparais, donc un ballon de football au milieu de l'Antarctique.
C'est une étape essentielle en réalité.
C'est une étape essentielle et primordiale et critique parce qu'elle permet effectivement, du fait de la complexité maintenant des architectures donc des puces IA, avec un nombre d'étapes qui sont effectivement grandissantes, il est vraiment important de à chaque fois pouvoir mesurer que chaque étape effectivement correspond donc à ce qu'on cherche.
Bon alors Damien, soyons cash, sans langue de bois, c'est facile de développer de l'industrie en France, notamment dans ce secteur industriel qui est très prometteur, plein d'avenir, mais aussi très concurrentiel.
La France a quand même effectivement un écosystème assez particulier. Déjà, effectivement, on a donc des têtes de pont en termes de recherche et développement avec l'ETI, donc, qui est basé à Grenoble. Après, on a un écosystème, effectivement, avec beaucoup de technologies autour, donc, des puces, des semi-conducteurs. On a effectivement des leaders mondiaux sur certains, effectivement, types d'applications. Et après, pour nous, effectivement, c'était vraiment pouvoir apporter un savoir-faire qui a été développé donc par cette start-up donc depuis à peu près maintenant une dizaine d'années et pouvoir la faire évoluer effectivement au niveau des besoins mondiaux.
Mais les coûts, on est compétitif alors quand on fait ça en France ?
À partir du moment effectivement qu'on a une spécialisation et qu'on est effectivement sur un marché niche, on est compétitif et cette compétition vient à travers notre technologie et notre innovation.
L'Europe représente aujourd'hui environ 10% de la production mondiale de semi-conducteurs. Votre activité, en réalité, elle est largement destinée à l'export, je crois. C'est la Chine, les États-Unis.
Elle est destinée à l'export du fait, effectivement, que les gros producteurs de puces sont à l'export, mais du fait que l'Europe, maintenant, à travers son Chip Act, a la vue effectivement de pouvoir accroître sa production de semi-conducteurs en la doublant de 10 à 20% et effectivement l'intérêt aussi pour nous d'être présents ici en Europe.
Là, vous allez faire travailler une centaine de salariés sur ce site en France, en Isère. Les recrutements sont faits. Est-ce qu'on a les compétences aussi ou est-ce qu'il faut renforcer la formation?
C'est une très bonne question. Et la raison pour laquelle nous avons investi effectivement dans le bassin isérois et dans ce qu'on appelle le Silicon Valley français, c'est effectivement pour avoir ces compétences qui sont proches.
Qu'est-ce qu'il faut? Il y a le vivier.
Ce qu'il nous faut, effectivement, nous, c'est des personnes qui ont des niveaux de diplôme entre Bac plus 3 jusqu'à Bac plus 5, même au-delà. On a beaucoup.
Dans quelle formation?
Formation physique, chimique, chimie des matériaux, optique. C'est effectivement ce qui est plus ou moins effectivement le nœud central effectivement de nos compétences au sein du site de Saint-Imier.
Bon, qui sont vos clients, alors?
Les clients, c'est les Je veux dire, les players majeurs, effectivement, de semi-conducteurs, qui sont effectivement basés en Asie, aux États-Unis, en Europe. Donc vraiment, effectivement, qui sont effectivement leaders sur la production des puces.
Vous ne donnez pas de nom, mais en fait, c'est ce qu'on connaît tous et dont on parle tous les jours.
Exactement. Nous sommes effectivement donc un fournisseur critique et important critique pour cette clé.
Pour conclure rapidement, et vous comptez surfer sur une demande de marché de plus en plus forte, on voit qu'on a du mal à répondre à la demande parce que l'outil industriel est en train de se constituer, qu'on lève des fonds aussi pour ça, avec des fournisseurs qui ont du mal à suivre les demandes.
La demande, effectivement, elle est actuellement très portée sur la partie IA et surtout, effectivement, pour tout ce qu'on appelle, effectivement, les data centers. Maintenant, à travers, effectivement, l'innovation, on se rend compte que cette demande, effectivement, est plus ou moins, donc, développée sur des architectures complexes au niveau, effectivement, des puces IA qui permettent peut-être, effectivement, de pouvoir, donc, limiter le nombre, mais pouvoir, effectivement, augmenter la capacité, la performance, effectivement, basée sur l'architecture.
Merci beaucoup, Damien Tulle, vice-président exécutif, directeur de la branche électronique de Merck. Dans une minute, l'essentiel de l'actualité avant le before de la séance boursière avec Étienne Braque. À tout de suite.